VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Manifestation anti-américaine en Irak. Le président américain Donald Trump a accusé l'Iran ce mardi d'avoir orchestré l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Bagdad par des milliers de manifestants pro-iraniens. Et il a exhorté les autorités irakiennes à utiliser la force pour protéger la mission américaine. Des milliers de partisans, des paramilitaires irakiens pro-iraniens ont forcé aujourd'hui l'entrée de l'ambassade pour protester contre les raids aériens américains dimanche dernier en Irak. Les forces américaines à l'intérieur de la mission ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les protestataires. Les frappes américaines de dimanche ont tué 25 combattants des brigades du Hezbollah, un groupe armé chiite irakien membre du Hach al-Sha'bi, une coalition de paramilitaires dominée par des factions pro-Iran et intégrée aux forces régulières irakiennes. Ces raids aériens ont eu lieu en représailles à la mort vendredi dernier d'un sous-traitant américain dans la 11e attaque à la roquette en un mois contre des intérêts américains. Une attaque non revendiquée mais attribuée par Washington aux brigades du Hezbollah. Afrique maintenant, en Égypte, réunion de la Ligue arabe ce mardi au Caire à la demande des autorités égyptiennes. Objectif de cette rencontre urgente sur la situation en Libye et examiner les deux accords de coopération que le GNA, le gouvernement libyen d'Union nationale siégeant à Tripoli, a signé avec la Turquie. Des accords qui constituent une préoccupation pour l'organisation panarabe. Précision d'Irénée Herman Umbo.
La réunion de la Ligue arabe se tient au niveau des délégués permanents pour examiner l'évolution de la situation en Libye et les risques d'escalade qui pourraient menacer la stabilité du pays et de la région. La Libye est aujourd'hui déchirée entre deux autorités, le gouvernement d'Union nationale GNA à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans l'est du pays. Fin novembre, la Turquie a signé deux accords avec le GNA. L'un porte sur la coopération militaire et l'aide que la Turquie pourrait apporter au GNA dans sa lutte contre les troupes du maréchal Haftar. Et le second porte sur la souveraineté maritime. Il permet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vaste zone en Méditerranée orientale, riche en hydrocarbures aux grandes dames de la Grèce, de l'Égypte, de Chypre et d'Israël. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a récemment dénoncé toute velléité de mainmise sur la Libye voisine.
Corne de l'Afrique, violence djihadiste en Somalie, le groupe islamiste Al-Shabaab, lié à Al-Qaïda, a revendiqué lundi l'attentat au camion piégé à Mogadiscio qui a fait au moins 90 morts et plusieurs dizaines de blessés samedi à proximité d'un poste de sécurité situé dans la capitale somalienne. Anne Anderson nous en dit plus.
Dans un enregistrement audio, le porte-parole des Chebab déclare que l'explosion visait un convoi de troupes turques et somaliennes et leur a infligé des pertes importantes. Ali Mohamed Raghe accuse par ailleurs la Turquie de s'emparer de toutes les ressources de la Somalie et promet que le groupe islamiste continuera de combattre les collaborateurs du gouvernement turc. Il s'agit de l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire récente du pays. En octobre 2017, l'explosion à Mogadiscio d'un camion chargé d'explosifs près d'une citerne d'essence avait fait près de 600 victimes. L'agence somalienne de sécurité et du renseignement a déclaré sur Twitter qu'un gouvernement étranger avait contribué à planifier l'attaque sans dévoiler l'identité de celui-ci ni donner davantage de précisions. Elle a indiqué qu'elle enquêtait avec l'aide d'un service du renseignement étranger.
Au Mali, ouverture de plusieurs enquêtes, dont une par la Division des droits de l'homme de l'ONU. Et ce, après la publication d'informations faisant état de la disparition de plus de 20 civils interpellés par l'armée malienne dans le centre du pays. Les détails avec Michel Joseph.
Les informations qui circulent depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, imprécises et parfois contradictoires, mettent en cause l'armée malienne. Dans un communiqué, les forces armées maliennes ont indiqué qu'une de leurs patrouilles avait interpellé des suspects à Maliamana le 19 décembre, mais qu'ils avaient été ensuite libérés. Des rumeurs font état de la disparition de ces civils. Selon un habitant de Dioura, l'incident s'était produit le 26 décembre et non le 19. Les corps retrouvés sont des habitants de Maliamana qui partaient pour la foire hebdomadaire. Certains disent 26, mais moi j'ai vu 24 corps qui ont été sortis du puits. Il y a plusieurs ethnies parmi les victimes. Je ne connais pas les auteurs de ce crime, a déclaré cet habitant, Amadou Balobo. Les autorités maliennes ont dépêché des enquêteurs de la gendarmerie. Elle n'a trouvé ni puits ni corps, soutient l'armée. La division des droits de l'homme de la force des Nations Unies au Mali a elle aussi ouvert une enquête, a indiqué un diplomate, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en Côte d'Ivoire, l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé a annoncé avoir appris sa condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne lors d'une audience lundi à Abidjan. La condamnation de M. Blé Goudé a lieu après l'émission d'un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, l'ancien allié du président Alassane Ouattara, que la justice ivoirienne accuse de complot. Le point avec Jean-Roger Bion.
Selon M. Blé Goudé, joint par l'AFP à La Haye, où il est en liberté conditionnelle après son acquittement par la Cour pénale internationale CPI, la justice ivoirienne l'a condamné par contumace à 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux victimes. Le tribunal a en outre délivré contre lui un mandat d'arrêt. M. Blé Goudé s'est dit surpris par ce verdict, prononcé sans la présence d'un avocat. Il était accusé par la justice ivoirienne d'actes de torture, homicide volontaire et viol, avait indiqué ses avocats le 18 décembre, jour où son procès devait s'ouvrir. L'annonce de la condamnation de M. Blé Goudé survient 8 jours après le début de l'affaire Guillaume Soro, l'ex-chef de la rébellion ivoirienne des années 2000 et ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement en France, est visé par un mandat d'arrêt international de la justice ivoirienne qui l'accuse de complot et d'avoir préparé une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. L'opposition a dénoncé mardi des dérives dictatoriales du pouvoir ivoirien.
Situation préoccupante des médias au Burundi, où le parquet de la ville de Bubanza dans le nord-est du pays a requis lundi 15 ans de prison à l'encontre de 4 journalistes du journal privé Iwachu et leur chauffeur. Les 5 avaient été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils tentaient de couvrir une incursion de rebelles burundais venus de la RDC voisine. Pour une réaction, Timothée Donangmaï a joint à Bruxelles, en Belgique, Antoine Kabouraï, directeur de publication du journal Iwachu.
On leur reproche de s'être rendu à Musigati, semble-t-il, dans le but d'aider les rebelles. Pourtant, les journalistes se rendaient sur terrain pour vérifier les informations qui faisaient état d'une attaque. Et les journalistes n'avaient même pas encore eu le temps de travailler. Les journalistes ont fait ce que font les bons professionnels quand il y a des informations sur une attaque. Ils vont sur terrain. Ils se sont rendus à Musigati vers midi, alors que les attaques s'étaient déroulées dans la nuit et à l'aube. Donc ils ne peuvent pas être complices des attaques qui se sont déjà passées.
Antoine, quelles preuves ont été retenues contre eux?
Le ministère public avance, semble-t-il, un message que la journaliste Agnès Ndiroubusa aurait échangé avec un correspondant de La Voix de l'Amérique. Et ce message disait, Agnès lui disait qu'elle se rendait à Musigati pour épauler les rebelles. Mais c'était vraiment, c'est même risible. C'était purement une blague de l'humour noir, comme les journalistes le font très souvent. Tout ça n'est pas une preuve, ne peut pas constituer une preuve. Ce qui nous a aussi étonnés, à côté du réquisitoire très sévère, 15 ans, c'est aussi que le ministère public demande que même le matériel des journalistes soit réquisitionné pour être mis à la disposition de l'État, comme patrimoine de l'État. La voiture, l'appareil photo, les enregistreurs, les téléphones, on trouve que c'est scandaleux.
Vous-même vivez en exil, quelles nouvelles vous parviennent de la vie des médias au Burundi aujourd'hui?
Écoutez, c'est très compliqué, mais bon, Iwachu existe depuis 11 ans, et jusqu'ici nous avions pu traverser toutes les crises, parce que nous sommes un média indépendant, professionnel. On ne travaille pas pour un parti politique, pas pour une idéologie quelconque. Et jusqu'ici, tout se passait très bien. Et je persiste à croire que le ministère public va se rendre compte que ces accusations ne tiennent pas du tout, ne tiennent pas la route. Les journalistes se rendaient sur terrain pour faire de l'information équilibrée, pour recouper, pour recueillir des témoignages, comme nous le faisons depuis 2008 au Burundi.
Antoine Kabouraï, directeur de publication du journal Burundi Iwachu, joint à Bruxelles. Et pour terminer, au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat de son parti à la présidentielle de 2021, décision prise à l'issue du congrès du Parti congolais du travail, le PCT, au pouvoir. Merci de votre attention.